Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne. Dans 30 minutes, vous pourrez évidemment commenter l'actualité de votre choix. Et parmi les sujets qui suscitent incontestablement le plus de réactions au standard et sur notre page Facebook, il y a la prestation de serment ce vendredi de Ban Dao, désigné pour diriger la transition au Mali. Autre sujet qui ne vous laisse pas indifférent, l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition en Côte d'Ivoire pour faire barrage à la candidature d'Alassane Ouattara, des réactions et encore et toujours sur la candidature du président guinéen Alpha Condé à un troisième mandat. Vous êtes quelques-uns, et j'espère qu'on aura le temps de vous prendre, à nous appeler pour témoigner des conséquences des importantes inondations qui ont frappé ces dernières semaines l'Afrique de l'Ouest. On en a beaucoup parlé effectivement au début du mois de septembre et depuis, voilà, il y a d'autres sujets malheureusement qui ont pris le dessus et certains d'entre vous ont encore les pieds dans l'eau. Donc nous vous donnerons évidemment la parole, un seul numéro pour nous appeler, le 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes à Kisangani, Jean-Baptiste, et vous souhaitez que l'on revienne sur le récent tête-à-tête en République démocratique du Congo entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila.
Oui, effectivement, merci beaucoup Anne de nous avoir accordé cet espace pour poser nos questions plus importantes. Le président Félix Tshisekedi et l'assistant président Joseph Kabila se sont rencontrés la semaine dernière pour discuter l'avenir de leur coalition FCC-CACH. Alors Anne, mes questions sont les suivantes, des questions qui rongent évidemment mes lèvres sont les suivantes. Est-ce que cette rencontre a donné intérêt d'entente pour régler les différents couacs qui surgissent dans cette coalition, notamment la récente nomination de Rossar Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante?
Oui, c'est vrai que ce tête-à-tête était particulièrement attendu, d'autant que les tensions sont récurrentes au sein de la coalition au pouvoir entre l'ex-président et l'actuel chef de l'État. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, les sujets qui fâchent sont nombreux. Alors dites-nous si cette rencontre a permis d'aplanir certaines divergences.
Alors, c'est vrai que c'était, il y avait eu tout un processus qui avait été mis en place par les deux chefs de l'État, l'ancien et le nouveau, pour tenter en fait de résoudre ces problèmes. Et donc, il y avait des équipes de négociateurs qui avaient travaillé et qui devaient leur remettre un rapport. Alors, il faut savoir que le rapport a été remis, mais qu'il n'y avait pas de solution, en tout cas pas pour les problèmes clés, à savoir le problème évoqué par l'auditeur, c'est-à-dire celui de la désignation des membres de la CENI, ni même en fait de solution pour notamment la nomination de deux juges à la Cour constitutionnelle par Félix Tshisekedi, auquel s'oppose le camp de Joseph Kabila. Donc la discussion s'est passée dans des bons termes, c'est les retours qu'on a à l'heure actuelle, mais sur le fond, il n'y a pas vraiment eu d'avancée sur ces questions-là. Il faut dire qu'il y avait des questions de fond, à savoir aussi qu'est-ce qui va se passer pour les élections de 2023. De plus en plus, l'entourage du président actuel dit qu'il veut se présenter en 2023. Or, ce que dit la coalition de l'ancien président, c'est qu'il s'était engagé à soutenir pour 2023 un candidat du FCC. Bien qu'on dise que Joseph Kabila pourrait ne pas être candidat. Enfin, il y a ceux qui disent publiquement qu'ils seraient candidats et officieusement ils disent non, ils ne souhaitent pas être candidats. C'est plus une question de respect de cet accord de coalition. Donc c'est vrai que c'est vraiment autour des élections de 2023 que se pose l'essentiel des problèmes. Tout est lié puisque évidemment la CENI joue un rôle très important pour ces élections. La Cour constitutionnelle, c'est évidemment la Cour qui donne les résultats définitifs. Donc on voit bien que le problème entre les deux se situe à ce niveau-là et sur ce point-là, il n'y a vraiment pas eu d'accord. Ouais. Et donc ça risque de perdurer encore un certain temps. Alors ils ont décidé quand même d'aller de l'avant. Et des discussions sont en train de continuer sur d'autres points, notamment tout ce qui est mandataire, désignation pour tout ce qui est territorial et autres, et aussi le remaniement du gouvernement, puisqu'ils sont d'accord sur le principe d'un remaniement ou d'une réduction du gouvernement. Et voilà, les discussions n'avaient pas forcément beaucoup avancé sur ces points, et là maintenant, les équipes devraient se mettre à négocier là-dessus.
Donc l'entretien fut cordial, mais les désaccords restent nombreux. Jean-Baptiste, vous avez une autre question qui vous ronge les lèvres?
Effectivement, il y a la deuxième question. Est-ce que l'avenir de cette coalition Franco mais pour le Congo, cap pour le changement, Es-tu le renforcé après cette rencontre entre ces deux alliés de la coalition, je parle de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi.
Sonia Rolley, en quelques mots, on a bien compris en vous écoutant il y a un instant que l'heure du divorce n'a pas encore sonné entre les deux.
Non, on n'en est pas au divorce. C'est vrai qu'il y a quand même des désaccords de fond. Et évidemment, s'il n'y a pas de solution qui est trouvée pour 2023, ça risque de, à un moment ou à un autre, d'être difficile entre les deux membres de la coalition. Mais pour l'instant, non, ils ont décidé de rester dans cette coalition, d'essayer d'y travailler au moins jusqu'à la fin de l'année.
Bien. Jean-Baptiste, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci à Sonia. Parfaitement, merci à Sony et merci à vous, Anne.
Sony pour les intimes peut-être, je ne sais pas.
Sonia Rolley.
Jean-Baptiste, bonne journée à Kisangani. Sonia Rolley, merci d'avoir été avec nous. 33 9 693 693 70. Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI, s'installe dans ce studio. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan.
On va parler foot, mais pas vraiment football. Hein. On va parler affaires, scandales qui secouent le football mondial. Bonjour Kalilou.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs.
Et le chef qui est à mes côtés également.
Bonjour Kalilou.
On vous écoute.
Bonjour. Le parquet suisse a requis 3 ans de prison avec sursis contre le numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valka, et 28 mois pour le président du Paris Saint-Germain et du sport, Nasser Al-Khalifa. Mm-hmm. Alors, quels sont les faits qui sont reprochés à ces deux hommes? Est-ce que ce procès va-t-il avoir des incidents sur le rôle de Nasser en tant que président du Paris Saint-Germain?
Ah oui, il sera fixé en tout cas à la fin du mois prochain, hein, le 30 octobre. Alejandro Valente, des peines de prison requises, je crois que c'est la première fois en Europe dans un cas de scandale qui secoue le football mondial. Si j'ai bien compris, en cause, il y a une somptueuse villa en Sardaigne et les négociations de droits de diffusion de la Coupe du Monde.
Voilà, et au cœur de l'affaire, donc, il y a Jérôme Valque, qui était à l'époque le bras droit de Joseph Blatter. C'est un homme qui est un ancien journaliste, mais qui a, en arrivant à la FIFA, a été atteint par la folie des grandeurs. Il a commencé à dépenser beaucoup d'argent. Malgré son salaire très élevé, il s'est endetté. Il rêvait d'une villa en Sardaigne, mais il ne pouvait plus se la payer. Mmh. Et du coup, Nasser Al-Khelaifi est arrivé, enfin une société qui dépend de lui, a acheté cette villa pour 5 millions d'euros et l'a mise à disposition permanente de Jérôme Valque. Et donc, le soupçon, c'est que cette gentillesse, disons, avait une contrepartie, c'est faciliter l'octroi des droits télé des Coupes du Monde de 2026 et 2030 pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au groupe Bein Media, qui était présidé justement par Nasser Al-Khelaifi.
Oui, enfin, le groupe Bein a tout de même mis sur la table 480 millions de dollars pour avoir le droit de diffuser les images de la Coupe du Monde 2026-2030. Excusez-moi Alejandro Valente, 480 millions, c'est une somme colossale.
Bah, c'est un peu l'argument de base des Valque et d'Al-Khelaifi, dire finalement la vente a été faite à un prix tout à fait honorable et très supérieur aux
plus qu'honorable,
précédentes
60% de plus que pour les mondiaux 2018-2022.
Voilà, donc ils disent on ne voit pas quel intérêt pouvait avoir Nasser Al-Khelaifi d'offrir une villa à Monsieur Valque alors qu'il était prêt à payer le montant réclamé. D'ailleurs, la FIFA n'a jamais dénoncer ce contrat. Et d'ailleurs, la FIFA a renoncé à porter plainte contre Nasser Al-Khelaifi. Ils ont trouvé un arrangement privé. Donc, ouais. À la base, c'est un peu les arguments que peut mettre en avant Nasser Al-Khelaifi en sa défense.
28 mois de prison ont été requis, dont 14 à 22 mois avec sursis pour le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Est-ce que ce procès risque d'avoir des répercussions, des incidences sur son rôle au sein du club parisien?
Au sein du club parisien, pas forcément, mais s'il est condamné, son image déjà serait fortement affectée, mais il perdrait aussi très certainement sa place au sein du comité exécutif de l'UEFA, ainsi qu'au conseil d'administration de la Ligue du football français. Donc ça aurait quand même des conséquences importantes. Nasser Al-Khelaifi est quelqu'un d'important au Qatar, c'est un ami d'enfance de l'émir, c'est un ministre d'État, c'est un peu l'homme qui incarne la politique de soft power dans le sport pour cet émirat. Et donc, évidemment, ça, c'est presque une affaire d'État. Mmh. Alors, je pense qu'il paye en grande partie sans, la manière un peu hautaine qu'il a qu'il a eu de gérer ses dossiers, son manque de collaboration avec la justice dans cette affaire. On verra finalement si les juges sont aussi sévères que le procureur dans son réquisitoire.
On verra ça le 30 octobre. On connaît même l'heure du jugement. Je vous la donne tout de suite. Ce sera à 13h30 exactement.
Vous êtes bien renseigné.
Voilà. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais voilà, j'ai simplement lu la dernière dépêche publiée sur ce dossier. Khalilou, a-t-on répondu à vos questions? Allô?
Oui.
dis donc, vous n'avez pas l'air convaincu, Khalilou. Non, moi je vais le dire, Alejandro Valente, vous avez été brillant ce matin, comme à chaque fois, parce que l'affaire est compliquée et vous avez su la rendre simple. Vous avez été pédagogique comme à chaque fois. À bientôt, Alejandro.
À bientôt en Sardaigne, alors peut-être.
Ah non, moi je ne rentre pas. Une maison en Sardaigne, c'est une villa à la beau être somptueuse. En Sardaigne, non. Peut-être en Espagne, peut-être.
D'accord.
Pourquoi pas. Allez, soyons sérieux. 10h21 à Paris, 33 9 693 693 60. D'autres questions à la rédaction de RFI Alseni. Soyez le bienvenu.
Et bonjour à tous mes compatriotes dans le foot à Dialon.
Ah, vous nous appelez donc de Guinée. Dans quelle ville êtes-vous?
Je suis à l'Abbé.
À l'Abbé, bien soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Au Botswana, plusieurs pistes scientifiques ont révélé qu'une bactérie serait responsable de la mort de plus de 300 éléphants dans le delta de l'Okavango. Scientifiquement, comment explique-t-on l'apparition de cette bactérie et pourquoi n'a-t-elle touché que les éléphants et non d'autres animaux du delta?
Bien sûr, bonne question que vous posez. C'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion dans cette émission de vous parler de la mort mystérieuse de centaines d'éléphants au Botswana, des éléphants qui ont été retrouvés sans blessure apparente et certains suspectaient ces derniers mois d'un empoisonnement de masse. François Mazet, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Alseigné, bonjour à tous.
Journaliste au service Afrique de RFI, finalement ce serait une bactérie qui serait responsable de la mort de ces pachydermes?
Voilà, une cyanobactérie pour être précis. Ça a une couleur bleue ou verte. On la classe comme une algue parce que ça pousse dans l'eau, mais en fait ce n'est pas une algue. C'est un micro-organisme qui se développe dans de l'eau stagnante, de l'eau calme, peu profonde, exactement comme les étangs, lorsque les bonnes conditions sont réunies, avec de la chaleur, de la lumière. Alors il y en a partout, hein, dans les étendues d'eau douce. Ces bactéries, elles peuvent produire des toxines qui ont des effets, plus ou moins d'effets. Si vous vous baignez dans un lac où il y a beaucoup de ces bactéries, eh bien vous pouvez avoir une éruption cutanée, de l'eczéma, une diarrhée éventuellement si vous buvez cette eau. Et c'est pour ça que dans les pays qui le peuvent, on contrôle les zones de baignade en eau douce et que souvent des lacs sont interdits parce que l'eau peut rendre malade. Alors là, bien sûr, pour les éléphants boitsonnés, on est dans d'autres proportions, hein, puisque des organismes de ce type, on en connaît près de 2000, mais on les connaît pas tous, forcément. Toutes ces bactéries n'ont pas été répertoriées. D'ailleurs, pour celles qui nous intéressent, on ne sait pas exactement de laquelle il est question et on ne sait pas quelle toxine elle produit. On imagine que c'est une neurotoxine, c'est-à-dire qu'elle s'en prend au système nerveux, puisqu'on a vu les éléphants touchés après avoir bu dans des mares surcontaminées, avoir des comportements faisant penser à un empoisonnement, hein, comme vous l'avez rappelé, Juan, c'est-à-dire une perte d'équilibre, une marche un peu désorientée, et puis une chute brutale vers l'avant, pas du tout caractéristique d'un animal qui serait malade naturellement, donc ça montre que c'est le système nerveux qui est touché. De ce qu'on sait, cette bactérie, elle a profité des grands trous d'eau temporaires qui se forment lors des saisons des pluies. Donc l'eau, elle stagne et puis la bactérie, eh bien, elle se développe dedans grâce à la chaleur. Ce qui était cela, c'est que depuis début juillet, eh bien, ces zones d'eau temporaires, ces étangs qui se forment, eh bien, ils disparaissent puisqu'on arrive à la période sèche et du coup, il n'y a plus eu d'éléphants morts retrouvés depuis le mois de juillet.
Et sait-on pourquoi cette bactérie affecte seulement les éléphants?
Alors, c'est la question que tout le monde se pose et honnêtement pour l'instant on ne sait pas. Est-ce que les pachydermes ont une fragilité particulière? C'est vraisemblable, mais en tout cas les investigations continuent dans plusieurs pays, plusieurs laboratoires, donc peut-être qu'une fois qu'on aura répertorié cette bactérie et cette toxine, on saura pourquoi les éléphants y sont particulièrement sensibles avec de tels effets dévastateurs.
Alseni, vous avez une dernière question.
Les autorités ont-elles annoncé des mesures pour éviter que cette bactérie se propage et fasse d'autres victimes?
Alors, François, Mazet.
Alors, elles ont promis d'être beaucoup plus attentives lors de la prochaine saison des pluies, mais comment faire? C'est difficile, hein, Juan, de tester dans la brousse chaque étang qui va se former. Guetter partout ces floraisons bleues et vertes, il faudrait une armée de drones, de biologistes, de vétérinaires empêcher les éléphants de boire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec le changement climatique, eh bien, les experts craignent que ce genre de bactéries se multiplient en raison de la chaleur, et donc les toxines aussi, et qu'elles soient ingérées par les animaux.
À suivre donc, François Mazet. Merci infiniment. Alseni, bonne journée à la baie en Guinée. On salue tous ceux qui nous écoutent sur place. Je sais qu'ils sont nombreux puisqu'on le voit au standard et dans les réactions. Les appels de la baie sont parfois majoritaires même quand il s'agit de débats sur la Guinée. Dernière question de la semaine posée par Alidor. Bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour Anastasia et à tous les auditeurs de RDC.
Vous êtes extrêmement bien informé, Anastasia Becchio du service international de RFI qui va vous répondre. Bonjour Anastasia.
Bonjour, bonjour à tous.
Des questions sur la situation en Biélorussie.
Très bien, voilà plus d'un mois que la contestation à la réélection de Loukachenko avait débuté et les manifestants continuent à se rassembler chaque week-end. Et par là, j'avais deux questions. Ma première, comment expliquer que la mobilisation se poursuive malgré les répressions policières?
Oui, bonne question. C'est vrai qu'il y a des dizaines de milliers de personnes hein, tous les week-ends, tous les dimanches à Minsk et on s'attend encore à de nouvelles manifestations, évidemment, ce week-end dans la capitale biélorusse. Anastasia Becchio, comment expliquer cette mobilisation qui continue, qui prend de l'ampleur malgré la répression policière?
Oui, c'est vrai que c'est du jamais vu en Biélorussie. Les gens sont sortis d'abord pour dénoncer des fraudes aux élections. Il y a eu beaucoup de frustration. Ça s'est ajouté aussi à la campagne électorale où les principaux opposants avaient été mis en prison, contraints à l'exil. Et puis la crise du Covid qu'Alexandre Loukachenko a mal géré en la niant tout simplement. Et paradoxalement, les violences de la part des forces de l'ordre ont poussé plus de monde dans la rue. Les manifestations ont vraiment pris de l'ampleur lorsque les gens ont eu des proches blessés, détenus arbitrairement, qu'ils ont vu des témoignages de personnes violemment battues, parquées dans des cellules surpeuplées. Tout cela a provoqué beaucoup d'émotions. Et puis, mercredi, la prestation de serment d'Alexandre Loukachenko en secret a provoqué la colère. Beaucoup de gens sont descendus dans la rue en soirée. Il y a eu de nombreuses arrestations, usage de canons à eau et de gaz lacrymogène.
Oui, donc la violence, la répression, c'est finalement la seule réponse des autorités?
Oui, Alexandre Loukachenko n'a d'ailleurs pas varié sur ce point. Pas question pour lui de mener de quelconques négociations. Ses rares soutiens se trouvent dans ce qu'on appelle le bloc de la force. C'est les services de sécurité, la police anti-émeute, l'armée. Il y a eu quelques défections, mais elles restent marginales. Et finalement, c'est la seule arme qu'il a contre les manifestants. On verra ce week-end quelle sera l'ampleur de la mobilisation, si elle s'essouffle ou non, s'il y a des arrestations. Il y a des grands rassemblements le samedi et le dimanche. Et puis d'autres formes d'action, des actions beaucoup plus locales dans les quartiers.
Oui. Vous avez une dernière question, Alidor?
Justement, voilà. L'Union européenne avait menacé de mettre les sanctions contre le régime biélorusse. Pourquoi tarde-t-elle à agir?
Ouais, toujours pas de sanctions de l'Union européenne qui, disons, rappelons-le, ne reconnaît pas la réélection de Loukachenko, mais pas de sanctions.
Oui, alors cette question est évoquée depuis des semaines. Il y a d'un côté les pays proches géographiquement de la Biélorussie qui plaident pour des sanctions sévères. Les pays baltes ont d'ailleurs franchi le pas, ont imposé des sanctions ciblées à des personnalités biélorusses. Plus à l'ouest, on était plus réservé quant à cette question, notamment pour éviter de braquer la Russie, pour maintenir un canal de communication avec Minsk ou pour éviter tout simplement que la Biélorussie ne se jette dans les bras de Moscou. Avec le temps, face à l'intransigeance d'Alexandre Loukachenko, peut-être aussi avec l'affaire Navalny, les divergences d'approche se sont estompées. Et aujourd'hui, il y a un quasi-consensus européen sur la nécessité d'imposer des sanctions.
En deux mots, Anastasia Becchio, à qui revient la tâche de décider de ces sanctions?
Alors c'est le Conseil européen, mais le problème c'est qu'il faut une unanimité. Or, on a vu quelques réticences de la part de Chypre qui voulait lier la question des sanctions biélorusses au sujet d'éventuelles sanctions avec la Turquie. Et puis il y a d'autres questions, qui doit figurer sur la liste? Est-ce qu'Alexandre Loukachenko doit en faire partie? Les discussions se poursuivent, mais de toute manière, elles n'auront que peu d'effet, elles devraient être surtout symboliques.
À suivre donc, et on verra évidemment ce qui se passera lors du Conseil européen, la grande réunion des chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres. Merci Anastasia, bonne journée. Bonne journée à Lidor.